Nzamba.
Nzambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Merci d'avoir choisi la radio Nzamba Gateka Kawe. Nous sommes dimanche 30 juin 2024. Bonjour et bienvenue chers auditeurs et auditrices dans cette édition rétrospective de la semaine. Proclamation dimanche dernier 23 juin du jugement rendu dans le procès de 274 militaires burundais accusés d'avoir refusé d'aller combattre le mouvement M23 au Nord Kivu. La sentence rendue par l'auditorial militaire en itinérance à la prison centrale de l'Otana est que ces militaires répartis en trois catégories ont été condamnés entre 20 et 30 ans de prison ferme. Cette décision est rejetée par ces militaires qui la jugent être influencée par la hiérarchie militaire. Ils dénoncent la parodie judiciaire et envisagent interjeter appel. L'édité avec Bonfils Niongel.
Deux de ces 274 militaires ont été blanchis. Les 272 qui restent ont été repartis en trois catégories. La première catégorie a été condamnée à 20 ans de prison et une amende de $500. La deuxième catégorie doit écoper 25 ans de prison ferme et une amende de $500 pour chacun. Comme les deux premières catégories, la troisième partie devra aussi payer une amende de $500 et une peine de 30 ans d'emprisonnement. Même si le ministère public et de l'auditorat militaire avaient requis une peine de 10 ans de prison pour 35 militaires qui n'ont pas passé par la brigade de Mouibambiro, rien n'a empêché le tribunal de les condamner à 20 ans d'emprisonnement. Cette décision n'a pas pris aux militaires condamnés qui la considèrent comme préméditée et influencée par les hiérarchies militaires. Il dénonce la parodie judiciaire de la cour militaire et prévoit interjeter appel.
La justice doit cesser d'être un instrument du pouvoir et dire le droit à l'endroit des militaires qui ont refusé d'affronter le mouvement M23 au Congo. L'appel est de Maître Janvier Guilimana. Cet avocat et défenseur des droits humains indique que leur procès et les lourdes peines prononcées contre eux est une persécution contre l'armée et que cela pourrait avoir des conséquences même sur le pouvoir burundais s'il ne prend pas garde. Maître Janvier Guilimana demande qu'au cours des procès en appel, il leur soit autorisé de se faire assister par des avocats de leur choix. Suivez-les.
La condamnation pénale qui vient d'être infligée à ces militaires burundais qui ont refusé de combattre en RDC est une condamnation injuste, une condamnation qui ne tient pas compte des facteurs qui ont influencé le comportement des militaires, une condamnation qui n'a pas respecté la loi, notamment la loi de la procédure pénale en vertu de laquelle ces militaires avaient le droit d'être assistés par des avocats de leur choix, mais aussi le droit de mieux se défendre par rapport aux accusations lourdes qui étaient portées à leur encontre. Nous demandons donc au pouvoir judiciaire burundais de traiter avec beaucoup de précautions ce dossier, sans doute pour lequel les militaires en question vont interjeter appel, et surtout aux autorités burundaises de prendre en considération le fait qu'il n'est pas habituel que des militaires burundais refusent de combattre en fonction justement de ce contexte, tirer des leçons pour qu'ils puissent prendre des mesures non seulement de libération de ces militaires, mais aussi de prévenir toutes sortes de dégradation des conditions de travail des militaires burundais, notamment qui sont envoyés dans cette mission où la situation est périlleuse. Un autre aspect qui est très important à souligner, c'est que il y en a certains de ces militaires qui acceptent qu'au lieu d'aller mourir dans une uniforme congolaise, il préfère plutôt de subir l'emprisonnement, raison pour laquelle cette guerre dans laquelle les militaires burundais sont impliqués est une guerre qu'ils ne comprennent pas. Nous pensons que les autorités politiques et militaires doivent alors chacune en ce que la concerne prendre des mesures de protéger tous les militaires burundais, sinon nous pensons que le fait de malmener l'armée burundaise risque d'avoir des conséquences et des retombées de ce comportement pour également toucher le pouvoir en place. Nous pensons que dans les meilleurs délais, ce qui est très important, c'est que le pouvoir judiciaire devrait cesser d'être un outil de répression que l'exécutif utilise à sa guise, et de lire la loi correctement et de respecter la loi de procédure pour que ces métiers puissent se défendre et que les moyens de défense puissent être pris en considération dans la décision à intervenir.
On continue cette rétrospective. Le siège du journal Iwacu, situé au quartier INSS en zone Rero, commune Mukaza de la mairie de Bujumbura, a été attaqué la nuit de lundi à mardi dernier par des jets de pierres lancés par des inconnus. La direction de ce journal dénonce des menaces incessantes contre ce média, mais dit qu'il ne va pas baisser les bras dans son devoir d'informer la population. On écoute à ce propos Abbas Mazumotima, directeur intérimaire du journal Iwacu. Il a dit à la radio Bonesha FM.
Il y a eu encore jet de pierres. Mais par après, il y a eu intervention des policiers, c'est juste à côté, il y a un poste de police. Ils sont venus, ils nous ont aidés à faire une sorte de ronde avec des torches. Ils ont essayé de voir s'il ne s'agit pas d'un voleur qui serait caché quelque part pour commettre un vol après. Mais à l'intérieur des enseignes du Iwacu, il n'y avait rien. Donc c'est que ça provenait de quelque part, donc de derrière les enclos du Iwacu. Il y a eu intervention du chef de quartier, ça n'a pas cessé. Ils ont été accueillis par un jeu de pierres. Vers 2h du matin, ça s'est calmé. C'est une sorte d'intimidation, ce genre d'incident. Mais l'appel que je peux lancer aux journalistes d'Iwacu, et même à tout le monde, parce que c'était pas seulement les journalistes d'Iwacu, il y a eu quelqu'un de la RTNB qui a été molesté avec le correspondant de Gitega d'Iwacu, c'est de faire leur travail de manière professionnelle, de rester calme, surtout au CNC, pour demander son intervention, d'appeler les gens à la sérénité, au calme. La liberté d'expression, c'est un des grands piliers de la démocratie.
La Ligue ITK qualifie ce jet de pierre à l'endroit du groupe de presse Iwacu comme un message fort d'intimider les journalistes qui sont restés au pays. En chair, Nico Yagize, le président de la Ligue ITK, explique qu'il s'agit des actes d'intimidation envers le journal Iwacu et demande aux autorités du pays d'assurer la protection des journalistes et de veiller au respect des lois et de la liberté de la presse au Burundi. Écoute.
Si on regarde d'autres attaques, pour l'ITK, on a décidé de faire cette déclaration pour juste pour alerter, pour demander au gouvernement d'assurer la protection des journalistes, de leur donner l'accès sur terrain, de leur donner cette facilité parce que les médias, les journalistes contribuent énormément pour la consolidation de la paix. Leur métier est incontournable pour la vie d'un pays. C'est pourquoi pour nous, nous saisissons aussi cette occasion pour demander à la CNC et à la CNDH de sortir de leur silence, de se montrer qu'ils sont là pour faire la promotion, la protection du travail des journalistes. La LITK, c'est cette occasion pour dire courage aux journalistes de rester toujours au service des sans-voix de la population, des citoyens burundais.
Inzamba. Radio Inzamba, on continue avec cette rétrospective de la semaine. La pénurie du carburant qui se remarque aujourd'hui au Burundi est due à l'augmentation des véhicules dans le pays. C'est l'explication fournie ce vendredi en province Makamba par le ministre de l'Énergie et des Mines lors de l'émission publique animée par tous les ministres du pays. Le ministre Ibrahim Ouizaye affirme que le carburant est disponible sauf que la demande est trop élevée. Écoutez. La population doit savoir que la pénurie de carburant ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'an 2019 et les années postérieures, la pénurie se remarquait comme c'est le cas aujourd'hui. Pour se procurer de ce produit, on doit avoir de l'argent en devise. Nous devrions aussi savoir que nous avons subi des sanctions économiques, ce qui a affecté le budget général de l'État. Une autre chose, depuis l'an 2022 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de véhicules a sensiblement augmenté et les outils qui s'approvisionnent en carburant se sont multipliés. Pourtant, les exportations pour avoir les devises n'ont pas augmenté. Le carburant est disponible sauf que la demande est trop élevée. La Sopebu est à l'œuvre pour que la population soit servie. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques condamne beaucoup les propos du ministre de l'Énergie et Mines sur la question des pénuries de carburant. Le LICOM estime que c'est un langage déplacé d'un ministre qui était censé apporter une réponse claire à la situation alarmante. Jean-Doui Mahana, le porte-parole de l'Olicom, explique que cela traduit une mauvaise gestion et planification du ministère sur la situation du carburant. Il demande plutôt au ministre de cesser son langage ironique envers les Burundais. Écoutez.
Personne n'ignore que la question carburant dans notre pays est une question qui est devenue une monnaie courante à cause de la mauvaise gestion des avoirs de l'État. Et l'Olicom a maintes prises crié haut et fort pour que la chose publique soit respectée, pour que le patrimoine de l'État soit géré en père de famille. Mais malheureusement, on a gardé l'œil fermé. Au lieu de trouver la solution de la question posée liée au manque de produits pétroliers dans notre pays, les autorités se précipitent à répondre en disant que ce sont les véhicules qui sont devenus nombreux. Alors que l'augmentation des véhicules, ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème. Plutôt la diminution des véhicules dans un pays est un problème. Un pays développé caractérisé par des moyens de transport en suffisance. Si les véhicules sont devenus plus nombreux et si la population burundaise est devenue plus nombreuse, ça c'est un signe du développement. Et plutôt c'est un problème de planification économique qui hante son pays. Il faut que cette autorité du ministère ayant des énergies mises dans ces activités, il faut que plutôt apprennent comment planifier suivant l'augmentation d'ici quelques années déjà. Non, ça c'est vraiment un discours verbal d'une autorité sans projet, sans planification.
Cette semaine a été aussi marquée par des enlèvements en cascade et des réfugiés burundais. Deux femmes burundaises réfugiées dans le camp de Nduta en Tanzanie ont été arrêtées dans la nuit du mardi par des hommes qui se faisaient passer pour des policiers et conduites vers une destination inconnue. Ces femmes seraient accusées d'avoir des époux qui se sont fait enrôler dans le mouvement de Tabara, accusation que leurs proches trouvent non fondée. Ils demandent plutôt que leur sécurité soit assurée. Olivier Gakima nous en dit plus.
Nos sources dans le camp de Nduta disent que ces deux femmes ont été arrêtées le soir de ce mardi par des hommes en tenue civile qui se faisaient passer pour des policiers. La première femme a été embarquée sans qu'aucune raison ne lui soit signifiée. La deuxième a dû répondre par la négative à la question de savoir si son mari était membre du mouvement Red Tabara. Jusqu'aujourd'hui, personne dans le camp ne sait où ces deux femmes ont été emmenées, comme le dit un de ces réfugiés.
La première qui a été arrêtée, c'est la nommée maman. Oui, elle a été arrêtée 20 heures. Une autre femme aussi a été arrêtée. La deuxième femme, c'est la femme de Niagara. Ce monsieur-là, il était au camp de réfugiés ici il y a 4 ans. Et on dit qu'il est dans le mouvement Red Tabara. C'est d'ailleurs ce que ces gens-là ont cagoulé, qui sont venus chez lui, ont demandé à sa femme. Et la femme a dit que ça fait 4 ans et quelques mois qu'elle ne savait pas où se trouve son mari. Ces informations, la police du camp a été informée, le bureau du chef de camp Kamanda a été informé, et voilà, toutes les autorités sont au courant, même les OACR, ils sont au courant. Mais après toutes ces explications, la femme a été arrêtée et amenée dans un endroit inconnu. Les proches des femmes ont cherché dans les cachots d'ici, ils n'ont trouvé personne.
Les proches de ces deux femmes demandent au HCR et aux autres organisations de défense des droits de l'homme de tout faire pour qu'aucun mal ne leur arrive.
Ils demandent alors au HCR de travailler là-dessus et de suivre de près les cas de ces deux femmes, aux défenseurs des droits humains de crier au effort. Parce que nous traversons des moments très difficiles, il y a beaucoup de peur ici, après ces arrestations à l'hôtel. Nous nous souvenons de ce qui s'était passé en 2018-2019, où les réfugiés ont été arrêtés et amenés au Burundi.
Les cas d'arrestation deviennent inquiétants dans le camp de Nduta. Il y a 3 semaines, un autre réfugié burundais de plus de 60 ans avait été arrêté dans les mêmes conditions.
Et pour terminer ce journal des journaux, signalons également qu'une femme et son enfant de 3 mois ainsi qu'un homme ont été arrêtés dans la nuit de jeudi dans le camp des réfugiés burundais de Nduta. Ils ont été appréhendés chez eux par des agents de la police tanzanienne. Les voisins des victimes ignorent leur motif de cette arrestation. La CBDH Vicar demande aux autorités tanzaniennes de cesser ces actes de violence envers les réfugiés burundais. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de la semaine sur la radio Inzambagati Kakawe. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au revoir. Ngije nzamba.
Nzambi rasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.